Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Il y a un an et quelques jours, la Russie envahissait l'Ukraine, État souverain. La guerre revenait en Europe, une guerre d'un temps révolu pour reprendre un territoire perdu il y a plus d'un siècle. Pourtant, nous sommes au 21e et nous ne pouvions imaginer cela. Depuis, nous avons des historiens qui nous ont précisé que ce déni était invraisemblable. La guerre est toujours présente et toujours peut-elle éclater. Pourtant, nos préoccupations étaient loin de la conquête des territoires ou des guerres coloniales. En ligne de mire, nous avions le climat, nos préoccupations étaient tournées vers des conflits potentiels liés aux guerres de l'eau ou aux flux des migrations. Et puis, de cop en cop, notre inquiétude avait grandi. Nous étions témoins de cette impossibilité, de cette impossible solidarité entre le Nord et le Sud, entre pollueurs et pollués. Or, en 92, au moment de la signature de la convention sur laquelle on tente de s'entendre, dont la convention sur le climat, un espoir était né, celui d'un monde uni par la fin de la guerre froide et reposant sur la force du multilatéralisme. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Ben Kramer nous a rejoint au téléphone. Bonjour Ben.
Oui, bonjour, bonjour.
Alors, vous êtes journaliste, ancien producteur de l'émission Fréquence Terre sur RFI, enseignant, polémologue, associé aux travaux du GRIP, le groupe de recherche sur la paix et la sécurité à Bruxelles, et rédacteur de votre blog Athéna 21. Avant d'évoquer donc les risques de militarisation durable et de sécurité environnementale, ce qui nous intéresse, revenons un peu sur ce multilatéralisme.
Ben là, c'est intéressant dans la mesure où, si nous avons plus ou moins évacué le problème de la guerre, si on l'a complètement éclipsé, c'est aussi probablement parce que, on voyait ça de notre myopie. Et le nombre de guerres avait continué. Et nous, on s'imaginait qu'il n'y en avait plus parce qu'il n'y en avait pas au Nord. Mais au fond, le prix à payer pour la pseudo-paix qu'il y a eu sur le continent était dû au fait que les guerres se menaient par des interlocuteurs interposés, des acteurs interposés, proxy wars, comme on dit en anglais. Et alors, on a fait les guerres de procuration.
Alors donc, ça se passait au Sud, en fait.
Ça se passait au Sud. Et ça se passe d'ailleurs beaucoup au Sud. Et ça se passe entre le Nord et le Sud. Et... je pense qu'on a un peu zappé, c'était l'angle mort de toute notre réflexion sur le développement durable pendant 30 ans en tout cas.
Alors comment on en est arrivé là finalement? Mais cette fin du multilatéralisme, vous ne nous l'expliquez pas vraiment. Le multilatéralisme d'abord c'est quoi? Et puis pourquoi est-ce que d'un seul coup il nous lâche?
Vous avez raison. Vous posez les bonnes questions, donc on va essayer d'apporter de bonnes réponses. Le multilatéralisme est né à partir du moment où on a considéré, et déjà dans les années 80, on a considéré qu'on ne pourrait pas assurer sa propre sécurité aux dépens de la sécurité de l'autre, de l'adversaire ou de l'ennemi potentiel. On devait essayer d'envisager, c'est un peu le boulot au fond des Nations Unies, c'était d'arriver à ce qu'on arrive à quelque chose qui ressemble à la sécurité collective ou la sécurité commune. Et donc le multilatéralisme, c'était au fond la possibilité de trouver des dénominateurs communs entre les différents acteurs dans la planète, sur la planète, mais on s'est vite aperçu que les rapports de force étaient tels entre le Nord et le Sud que le Sud n'a pas considéré que nous étions vraiment dans un processus pour essayer d'unifier le monde. Et c'est ça un peu la crise du multilatéralisme.
Mais c'est-à-dire, c'est quoi cette idée que le Sud ne comprenait pas ? Qu'est-ce qu'il ne comprenait pas ?
Déjà, le premier obstacle, ça a été cette façon que nous avions de considérer qu'on était non seulement on était probablement plus fort, mais qu'on était plus vertueux. Deuxièmement, on considérait aussi, et on le fait, et on continue à le faire, c'est d'avoir deux poids, deux mesures dans l'évaluation et dans le jugement de ceux qui seraient plus ou moins des anti-multilatéralistes.
Alors, c'est quoi les deux poids, deux mesures ?
Alors, les deux poids, deux mesures, c'est, par exemple, le fait de considérer que il y a des alliés, et parmi nos alliés, il y a effectivement des puissances qui ne respectent pas du tout les droits de l'homme, par exemple. Ou on peut... On imagine en même temps que pour le Sud, et ça peut-être qu'on ne l'a pas assez bien pris en compte, c'est jusqu'à quel point la question de l'information était monopolisée par le Nord, par l'intermédiaire de 4 ou 5 agences de presse qui elles-mêmes donnent le tempo de ce qui est important et pas important.
Alors justement, quand vous étiez comme responsable de votre émission Fréquence Clair à RFI, est-ce que vous aviez cette préoccupation ?
La préoccupation qu'on avait, c'était en même temps l'illusion d'offrir la bonne parole. Et on retrouve ça dans tout le spectre, par exemple, sur la question du développement durable du climat. Prenons l'enjeu climatique. Comme on avait adopté le principe à partir du protocole de Kyoto de la responsabilité différenciée, considérait que c'était plus à nous de faire les efforts. Mais c'était très relatif parce que notre grille de lecture, elle a été complètement faussée à partir du moment où on considérait que, nous étions... nous étions plus vertueux que les autres.
Alors pendant qu'on s'occupait effectivement de paraître plus vertueux, et notamment par rapport aux problèmes émergents qui étaient ceux du climat, vous écrivez que pendant ce temps, les forces armées et leurs arsenaux se renflouaient et finalement dépensaient bien plus d'argent dans la course aux armements que dans ce sur quoi on se préoccupait, qui était le fond vert, par exemple, et le changement climatique. Donc, d'un côté, on avait des États qui se préoccupaient des problèmes climatiques, et puis de l'autre côté, on avait des armées qui continuaient, finalement, à dépenser pour pouvoir s'armer davantage.
Ça fait partie de toute la hiérarchie internationale. Effectivement, on a au Conseil de sécurité, au fond, les plus grands exportateurs d'armes. On a une puissance comme la puissance européenne qui, avec 5% de la population mondiale, est quand même capable de mobiliser à peu près 25% de la puissance militaire dans le monde. Donc il y a effectivement tout un décalage. Et si on veut continuer avec les chiffres, on peut dire que l'Occident dépense à peu près 30 fois plus pour s'équiper, s'armer, plutôt que de financer les caisses du fonds vert pour le climat.
Alors tout ça, c'est...
Ça fait partie toujours de la même incompréhension et du même malentendu entre le Nord et le Sud.
Alors, tout ça ne nous rend pas optimistes. Et en mars 2022, vous écriviez dans un article pour le magazine Oui Demain, vous évoquiez les travaux que vous menez au sein du GRIP sur une paix durable, et vous étiez très pessimiste. Il semble vraiment que l'environnement est une victime collatérale de la guerre. Alors, est-ce qu'on peut en dire deux mots, par exemple, en prenant l'exemple de l'Ukraine aujourd'hui, où on voit vraiment que l'environnement est touché directement ? et qu'une guerre aujourd'hui se mène déjà à travers l'environnement.
Non, il y a au fond deux paradoxes là. Le premier, c'est que il y a toujours eu une destruction des environnements qui ont été provoqués par des conflits et par même des préparatifs de guerre. Et en même temps, c'est grâce à ces désastres et à cette inspection des dégâts que le mouvement écologique aussi est né et a réussi à prospérer. Ça, c'est la première contradiction. La deuxième, c'est que les militaires qui se considèrent aujourd'hui comme étant, en tout cas dans le Nord, considèrent qu'ils vont pouvoir régler certains problèmes dus au dérèglement climatique, sont ceux également qui ont été les principaux responsables de la dégradation du climat, en utilisant toutes sortes de techniques, y compris d'ailleurs les premières expérimentations d'armes météorologiques dans les années 60. Et ce sont les mêmes qui nous expliquent aujourd'hui que, grâce à eux, on va pouvoir éventuellement résoudre les problèmes climatiques.
Alors, oublions deux secondes les problèmes climatiques pour voir comment, en Ukraine, atteindre l'environnement, c'est faire la guerre.
Alors ça, c'est intéressant parce que c'est la vieille technique de la terre brûlée qui est toujours à l'œuvre. Et quand on essaye d'atteindre un adversaire, d'atteindre le moral notamment des troupes, on utilise comme objectif prioritaire tout ce qui concerne les différentes infrastructures. Donc la destruction, par exemple, de l'Ukraine, c'est la destruction déjà des installations civiles comme les centrales nucléaires. C'est aussi tout de suite les destructions de tout ce qui concerne l'eau et les réserves énergétiques. Ça, on a vraiment, on le pratique à une grande échelle dans ce laboratoire qui est l'Ukraine et qui reproduit d'ailleurs ce qu'avaient fait certains du côté de la Syrie.
Alors, vous venez de parler de l'idée de l'eau. Enfin, bon, c'est la première des choses qu'on fait. On prive les gens d'eau, on les prive ensuite d'énergie. Là, on est dans
On empoisonne les réserves, oui, absolument.
Alors là, on les prive aussi d'énergie. Et on a vu se mettre en place, finalement, sur l'Ukraine, un danger, une menace. Et là, on comprend un petit quelque chose sur la guerre. Finalement, les centrales nucléaires, la centrale nucléaire qui a fait un peu trembler le monde, parce qu'il est évident que si la centrale nucléaire avait explosé, on était dans un nouveau Tchernobyl, enfin, on ne continuait plus une guerre normale, si je peux dire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on entrait dans une autre dimension. Or, cette centrale nucléaire avait été conduite par les Russes, a été construite par les Russes, et les Russes ne l'ont pas attaquée. Quelle analyse vous en faites, vous ?
La première chose qu'on peut dire, c'est que ce genre de... c'est que les méthodes qui ont été utilisées pour s'attaquer d'abord à des centrales nucléaires, ça a probablement aussi provoqué toute une conscientisation de l'Occident par rapport à sa propre vulnérabilité. Et ça, c'est une des conséquences. On ne peut plus, on doit considérer que même n'importe quelle installation civile peut demain devenir un objectif militaire. Et quand vous parlez aujourd'hui avec des responsables qui s'intéressent à l'énergie nucléaire, ils se rendent bien compte eux-mêmes que nous n'avons absolument pas prévu que ça pourrait être un théâtre de guerre.
Alors là, bon, on vient de parler des problèmes de l'énergie nucléaire. On aurait pu parler aussi de toute la dimension finalement sur la guerre alimentaire, tout ce qui a traîné sur nourrir le monde à travers l'Ukraine et que certains reprennent pour éviter justement l'autonomie locale. Bon, mais on vient de parler donc de cet exemple précis qu'était l'Ukraine, une guerre finalement comme toutes celles que l'histoire a contées. Revenons un petit peu au réchauffement climatique. Les autorités militaires prétendent qu'il n'y a pas encore eu de guerre climatique. Or, voici ce que François Gémen, qui est politologue et membre du GIEC et qui est aussi membre de l'Observatoire Défense et Climat, nous en dit.
Le premier pays qui pourra se passer de réserves de pétrole aura évidemment un avantage énorme sur potentiellement tous ses adversaires et tous ses ennemis. Au-delà de ça, je crois qu'il faut bien prendre conscience que la quasi-totalité des conflits à travers l'histoire, et encore le conflit actuel en Ukraine, ont été des conflits menés autour de la question des territoires, qu'il s'agisse de gagner du territoire ou de défendre du territoire contesté. On n'a pas encore pris pleinement la mesure de la manière dont le changement climatique, et notamment la hausse du niveau des mers, mais pas seulement, allait reconfigurer nos cartes de géographie. C'est-à-dire que la carte du monde à laquelle nous sommes habitués, qu'elle soit en projection Mercator ou Janssen, va être profondément transformée dans les contours des pays, dans les contours des continents, par la hausse du niveau des mers et potentiellement par le fait que certains territoires deviendraient inhabitables. Et donc, quelque part, de facto, le changement climatique va nous amener à devoir revoir toute une série de modes de coopération, mais aussi toute une série de concepts qui sont aujourd'hui fondamentaux dans la structuration de l'ordre international. Je pense à la souveraineté, je pense à la puissance, je pense à la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté, dans un monde où certains États pourraient littéralement disparaître à cause de la hausse du niveau des mers? Qu'est-ce que ça veut dire, la puissance, alors que les émissions des uns cause tant de dommages chez les autres? C'est potentiellement une manière d'organiser le monde qui va être profondément transformée, véritablement dans ses concepts mêmes, par le changement climatique. Et donc là, évidemment, ça va complètement révolutionner, à mon sens, la manière dont on va envisager les questions de compétition, de conflictualité et de coopération. Et c'est aussi pour ça que l'accord qui est intervenu à la COP27, et je ne veux pas être d'un optimisme béat quant au résultat des COP, mais c'est pour ça que l'accord intervenu à la COP27 de Sharm el-Sheikh sur les pertes et dommages est tellement important, parce qu'il contribue un peu, quelque part, à rapprocher les points de vue des pays industrialisés et des pays du Sud. Et si ce fossé continue à s'accroître au cours de la question climatique, là nous avons un sujet majeur de conflictualité.
Alors, là, on vient de l'entendre, Gémen ne partage pas tout à fait le point de vue des militaires qui nous disent qu'il n'y a encore pas eu de guerre liée au climat. Mais si on regarde, par exemple, ce qui s'est passé en Irak, on est bien sur une guerre de l'eau. Et les guerres de l'eau ont déjà eu lieu.
On est... Oui, je trouve les propos de François Gémen très, très, très révélateur des bonnes interrogations qu'on doit avoir. La géographie sert beaucoup et surtout à faire la guerre, comme disait l'autre. Et effectivement, on va probablement devoir réviser certains de nos manuels parce que la géographie elle-même va être remise en question. C'est vrai, c'est vrai. En même temps, on assiste dans le cas de l'Ukraine à quelque chose d'assez étonnant, parce qu'on retrouve à la fois cette espèce de vision prospective, avec notamment des îles qui vont disparaître, donc effectivement une remise en question de tout ce qui est la souveraineté, et en même temps on assiste en Ukraine à quelque chose de très archaïque sur la défense de certains territoires, et sur le fait que c'est aussi la passion qui domine et qui est l'un des facteurs qui mobilise les uns et les autres pour pouvoir détenir un certain pouvoir. Il y a les deux. Je pense que c'est pas forcément contradictoire, mais les guerres qui vont probablement s'étendre sont probablement de plus en plus liées avec une volonté d'ingérence des uns et des autres, que ce soit au nord ou au sud, par rapport à des manifestations qui nous dépassent. On peut très bien imaginer aussi que certains États du Nord, et là ça m'étonne de la part des militaires qui n'y pensent pas beaucoup, c'est que on va probablement mobiliser des forces armées pour interdire à certains pays d'utiliser par exemple des procédés de géo-ingénierie. Donc là, on va avoir un autre cas de figure.
Expliquez-nous un petit peu, parce que là, c'est pas clair ce que vous venez de nous dire là. Qu'est-ce que c'est d'abord que ces systèmes de géo-ingénierie dont on parle là?
La volonté, par exemple, de provoquer certaines, de modifier au niveau même local, de modifier certains processus géophysiques pour climatiser telle ou telle zone, pour diminuer par exemple certaines inondations, ou pour accroître au nom de la végétation telle ou telle. On peut utiliser des procédés de géo-ingénierie.
Et est-ce que là, ce n'est pas une violence? Est-ce que ce n'est pas une autre manière de faire la guerre,
hein? Absolument, ce sera l'une des méthodes, et une des méthodes les plus perverses, disons, dans la mesure où, avec ce genre de procédé de géo-ingénierie, on ne saura pas forcément qui est l'acteur principal de ces transformations.
Donc on ne saura pas qui il faut combattre.
Voilà, exactement.
Donc, alors, détruire l'environnement, comme on vient de le voir, fait-il partie aujourd'hui de ce qu'on appelle les crimes de guerre?
Alors, pour les... En fait, ce genre de crimes devrait être pris en compte au niveau du droit international en tant que écocide. Et ça, on en parle depuis les années, depuis la guerre du Vietnam, à partir de l'agent Orange, à partir de tout ce qui a été mené comme opération de déforestation dans certaines régions du monde. Et le crime d'écocide devrait, à un moment donné ou à un autre, être prise en compte au même titre que le génocide. Maintenant, ça va être très, très difficile d'avoir des instruments juridiques pour accuser tel ou tel acteur de telle ou telle destruction. Mais ça doit être effectivement des destructions qui, selon les conventions internationales, doivent remplir un certain nombre de critères, y compris l'étendue et la durée.
Donc, un nouveau combat.
Absolument. Absolument un nouveau combat où on devrait pouvoir admettre que la destruction, par exemple, d'une végétation équivaut à ce qui se fait en termes de bombardement.
Alors, vous étiez, il y a quelques années, faisiez partie, et vous faites toujours partie, du mouvement pacifiste. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on peut encore, avec tout ce qui s'annonce, est-ce qu'on peut encore être pacifiste? Et comment voyez-vous votre position personnelle dans cette... Alors, d'abord, vous nous dites que vous n'êtes pas optimiste. Ensuite, vous nous annoncez des choses sur lesquelles il va être très difficile d'agir. Donc, quelle est votre position personnelle? Est-ce qu'aujourd'hui, un écologiste peut être pacifiste?
J'aurais tendance à dire que l'écologisme n'a aucun avenir s'il n'est pas capable d'avoir aussi un discours sur la paix. Et la question du pacifisme, il faut tout simplement la poser autrement. Et elle a été posée autrement. Certes, la charte de l'ONU, dans le cadre de la charte de l'ONU, et des gens qui ont été les principaux artisans, la dimension environnementale de la paix a été complètement absente, complètement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se limiter à faire une sorte de formule de la paix égale l'absence de guerre ou la paix égale le cessez-le-feu. La paix, ça doit être autre chose.
Ça doit être quoi ?
On compte complètement l'environnement. Et c'est une vieille bataille au fond, puisque on se rend compte de plus en plus que la guerre qui a été menée ces dernières années, c'est pas seulement une guerre contre les êtres humains, c'est une guerre contre nos environnements, contre la biosphère. Et on peut même dire que dans quelques années, enfin ça fait partie peut-être de mon optimisme, que des négociations sur le climat devraient être inscrites dans le cadre de traités sur le désarmement.
Alors on voit d'ailleurs que c'est quelque chose qui monte, cette notion de... D'abord, ça a commencé par les préoccupations du GIEC sur les déplacés environnementaux. Donc, on a parlé de tous ces gens qui allaient migrer parce qu'ils ne supportaient pas les températures et qui allaient créer très certainement des conflits dans le Nord, en Europe, aux États-Unis, etc. Et puis, aujourd'hui, on atteint ce que vous êtes en train d'évoquer. C'est-à-dire que on se préoccupe, et on le sent au sein des COP, on se préoccupe davantage des questions d'équilibre de paix, d'une certaine manière.
Absolument. La sécurisation devra se faire aussi à ce niveau-là. Et là encore, on est loin du multilatéralisme, puisqu'il y a une grande majorité de pays dans le monde qui ne veulent pas actuellement que la question climatique, par exemple, figure au menu du Conseil de sécurité.
Alors, on en reparlera parce que, bien sûr, c'est un des points, on aura sans doute l'occasion d'en reparler à l'occasion de la COP18. En tout cas, merci à vous, Ben Kramer, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle votre blog pour tous ceux que cette question intéresse parce qu'il est d'une très grande richesse, athéna21.org. Et je rappelle qu'Athéna était la déesse grecque de la sagesse et de la stratégie guerrière et pas seulement la déesse de la guerre.
Non. Ou disons la déesse d'une guerre juste.
D'une guerre juste, merci.
Ce qui est aussi un grand pavé dans la mare, parce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui si le fait de... est-ce qu'on peut en même temps pratiquer et légitimer des guerres soi-disant justes au nom de l'environnement ? Ça fait partie du... Ça fait partie des grandes interrogations.
Merci.
Allez, je vous en prie. Bonne journée.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.